Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On s'aperçoit que les gendarmes, dans tout ce qu'ils font tous les jours, à chaque fois, ils peuvent être pris à partie. Et trois morts, nous, c'est pas envisageable. On est vraiment catastrophés.
La stupeur à Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, après la mort de trois gendarmes la nuit dernière, tués alors qu'ils tentaient de venir en aide à une femme réfugiée sur le toit de sa maison. Le forcené n'est autre que son compagnon, un homme au profil extrêmement inquiétant et qui se serait suicidé. Nous irons sur place dans ce journal. Nous irons également à Bruxelles, où Européens et Britanniques seraient tout proches d'un accord sur le Brexit. Après 10 mois de négociations, le spectre d'un no deal semble s'éloigner. Ils ont payé cher leurs tests et leurs billets, mais ils sont enfin en France. Soulagement pour les passagers des premiers Eurostars qui ont traversé la Manche. Eux, en revanche, sont toujours bloqués en Grande-Bretagne. Les routiers s'exaspèrent. Après avoir repris timidement ce matin, le trafic des ferries est de nouveau à l'arrêt. Dans ce journal également, une station de ski en Suisse qui met en quarantaine ses touristes britanniques de peur qu'ils soient porteurs de la nouvelle souche du Covid. Le Conseil d'État maintient la fermeture des cinémas et théâtres, mais le monde de la culture a trouvé dans les détails de cette décision une raison d'espérer. Et puis le foot, dernière soirée de Ligue 1 avant la trêve, nous suivons trois matchs, Montpellier-Lille, Angers-Marseille et PSG-Strasbourg. Le temps de demain, il devient hivernal, chute des températures, averse, vent et retour de la neige en montagne, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 1,11% à 5527 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis l'interview écho dans 20 minutes, direction Rungis. Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil reçoivent ce soir Véronique Gilardeau, co-gérante de la maison Gilardeau, célèbre marque d'huîtres.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une scène de guerre, un traumatisme, les mots manquent encore ce soir pour qualifier ce drame la nuit dernière à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. Un homme a abattu trois gendarmes et en a blessé un autre alors que les militaires tentaient de venir en aide à la compagne du forcené qui s'était réfugié sur le toit de la maison en flammes. L'individu a ensuite pris la fuite et se serait suicidé. Le procureur de Clermont-Ferrand a donné ce soir une conférence de presse. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place pour Europe 1. Est-ce que l'on en sait plus sur ce qui s'est passé hier soir ?
Oui, et le procureur a eu des mots très forts, pour tout dire assez rares. Il n'a pas voulu parler de drame, mais plutôt d'une horreur criminelle. Il a évoqué une scène de guerre à l'arrivée des gendarmes sur les lieux, avec la maison brûlée et des centaines de douilles tirées à la fois par les gendarmes, mais surtout par le forcené qui était équipé d'armes automatiques. Car il s'avère que l'homme, Frédéric Limol, 48 ans, arrivé dans la région il y a 4 ans et qui suivait une formation d'élagueur, était surarmé. Quand les gendarmes l'ont découvert après qu'il s'est donné la mort ce matin, l'homme portait un gilet pare-balles, il était également équipé d'un pistolet automatique Glock, mais aussi d'un fusil automatique américain, une arme de guerre équipée d'un silencieux, d'une torche et d'un dispositif à visée laser, des armes non déclarées et avec lesquelles il n'a pas hésité à tirer à de nombreuses reprises sur les gendarmes, quasiment comme un sniper, un profil inconnu des forces de l'ordre, mais très inquiétant selon le procureur de Clermont, Éric Maillot.
Il pratiquait le tir en compétition. On en a la certitude, il faisait notamment dans le sud de la France. Il faudra évidemment qu'on vérifie son comportement, qu'on entende les gens avec qui il pouvait pratiquer le tir. Il se disait catholique très pratiquant, on pourrait même dire presque extrémiste, survivaliste. Il fréquentait les stages d'entraînement à la survie. Il semblerait également qu'il était persuadé de la fin du monde prochaine. Bref, un individu au profil extrêmement inquiétant.
Jean-Luc, les gendarmes qui sont intervenus hier soir étaient originaires d'Ambert, où on imagine que l'émotion est toujours très forte ce soir.
Oui, parce qu'effectivement, ces trois gendarmes appartenaient à la compagnie d'Ambert, où ils vivaient depuis plusieurs années. Les trois victimes sont un brigadier de 21 ans, un adjudant de 38 ans, père de deux enfants, et un lieutenant de 45 ans, commandant en second de la compagnie, lui aussi père de deux enfants. Trois hommes abattus alors qu'ils étaient en reconnaissance aux abords de la maison du forcené. Le maire d'Ambert, Guy Gorbinet, est très marqué.
Je pense aux familles qui doivent être dans un état catastrophique. Je connaissais l'officier, puisque c'était le numéro 2 de la brigade. On est une commune de 7000 habitants. Vous savez qu'il y a des liens entre les élus, etc. Beaucoup de confiance. Donc c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. Et on s'aperçoit que les gendarmes, dans tout ce qu'ils font tous les jours, à chaque fois, ils peuvent être pris à partie. Et trois morts, nous, c'est pas envisageable. On est vraiment catastrophés.
Voilà, un mot du quatrième gendarme, touché lui aussi dans la fusillade et hospitalisé. Il s'en est miraculeusement tiré, sauvé par son gilet pare-balles qui a arrêté le tir du forcené.
Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ajoute que la compagne du forcené a pu être sauvée. Elle est ce soir hospitalisée.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Un filet de fumée blanche ce soir à Bruxelles. Après 10 mois interminables de négociations, Européens et Britanniques semblent tout proches d'un accord commercial sur leurs relations post-Brexit. Accord qu'on nous annonçait comme imminent en fin d'après-midi. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Ça en est où ?
Eh bien, cet accord se fait toujours attendre. On espérait une annonce entre 19 et 20 heures. Elle n'a pas eu lieu. En réalité, les négociateurs européens et britanniques ont bien trouvé un terrain d'entente au niveau technique. Mais le texte, qui n'est pas totalement finalisé, est désormais examiné et décortiqué par les capitales à Londres, évidemment, mais aussi à Paris, Berlin ou Rome. Cet examen prend plus de temps que cela n'avait été anticipé. Le futur traité fait quand même 2000 pages. Le diable est dans les détails, explique une source au fait des négociations. Et ce n'est que lorsque les pays auront donné leur feu vert que Bruxelles pourra boucler l'accord avec les Britanniques. Il faut donc rester prudent, expliquent plusieurs diplomates. À ce stade, rien n'a fuité sur les derniers compromis qui ont permis l'optimisme des dernières heures. Côté français, on affirme que les Britanniques ont lâché beaucoup de lest. Ça sera confirmé hein, au vu du texte final, notamment sur le sujet sensible de la pêche. En tout cas, Julien, à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne voudrait vraiment pouvoir annoncer un accord pour Noël. Alors on croise les doigts.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Le blocus sanitaire autour du Royaume-Uni se lève peu à peu. Depuis ce matin, trains, ferries et avions circulent quasiment normalement entre la Grande-Bretagne et la France, mais très peu de passagers sont à leur bord. Et pour cause, il faut impérativement avoir un test négatif de moins de 72 heures pour traverser la Manche. Et Yasmine Akatou, vous avez assisté à l'arrivée Gare du Nord du premier Eurostar qui a pu quitter Londres et ça a été le parcours du combattant pour les passagers.
Oui, il faut montrer patte blanche avant d'entrer sur le sol français. Contrôle strict de l'autre côté de la Manche.
Il y avait des policiers français là-bas qui demandaient le test, qui demandaient les cartes d'identité, qu'il n'y avait personne dans le train. Je crois que plein de gens n'ont pas eu le temps de faire le PCR.
Pas le temps ou pas les moyens. En Angleterre, les tests sont remboursés uniquement pour les personnes malades. Pour prendre cet Eurostar, tous les voyageurs ont dû payer de leur poche.
C'est un scandale, ça coûte 160 pounds de faire un test PCR minimum. Sinon, ils ne laissent pas passer.
160 pounds, presque 180 euros. Il faut ajouter au PCR le prix du billet Londres-Paris, réservé à la dernière minute pour Marie.
Les derniers billets, il restait que du business, donc à la gare ça se passe très bien, mais ça coûte une fortune, mais voilà, 250 pounds. Enfin bref, un enfer, mais joyeux Noël quoi.
Au total, Marie a donc déboursé 450 euros pour arriver à Paris. Comme Estelle, étudiante à Londres, Eric, son père, est venu la récupérer sur le quai, soulagée.
On avait franchement peur qu'elle vienne pas, quoi. Heureux qu'elle soit là, et j'y croyais pas jusqu'à ce matin où elle me dise « je suis dans le train », et là j'ai dit « c'est bon, ouf, elle est là quoi ». Le retour, on verra après.
Probablement début janvier, mais là, j'y pense pas.
Estelle et son père vont pouvoir profiter d'un repas de Noël en famille demain et oublier ses mésaventures.
Yasmina Katou, si à la gare du Nord, c'est le soulagement, vous venez de l'entendre, à Douvres, en revanche, c'est l'exaspération. Plusieurs milliers de chauffeurs routiers attendent toujours d'être testés pour traverser la Manche. Et les autorités britanniques sont totalement débordées. Ajoutez à cela des conditions indignes, absence de commodité, de repas, et vous avez une situation qui se tend considérablement, à tel point que le trafic transmanche est de nouveau paralysé, comme vous l'avez constaté à Calais, Maximilien Carlier.
Oui, effectivement, aucun ferry n'a quitté Calais cet après-midi. Ce matin, il y a eu seulement quelques voitures, fourgonnettes, vannes qui ont pu débarquer. C'est le cas de Christian, conducteur roumain, chanceux mais exténué.
Très épuisé, vous savez, après 50 heures d'attente, il n'y a pas de toilette, rien de tout.
Alors Christian va pouvoir reprendre la route, rentrer chez lui, mais ce n'est pour l'instant pas le cas des 500 conducteurs français coincés au Royaume-Uni, selon Sébastien Rivera. C'est le secrétaire général de la Fédération nationale des transporteurs routiers du Pas-de-Calais.
Ils sont stockés dans des conditions inhumaines. En 48 heures, ils ont à peine eu une barre de céréales qui a été distribuée. Très peu de toilettes, pas de douche. J'ai eu des conducteurs dans le téléphone qui voulaient aller dans une supérette pour pouvoir s'alimenter. Ils ont eu interdiction de sortir, donc ils sont vraiment pris en otage.
Conséquence, certains refusent désormais de traverser la Manche. Jean-Pierre Devigne, gérant de RDV Transport.
J'ai déjà 2-3 chauffeurs qui sont venus me voir cette semaine et qui ne veulent plus faire l'Angleterre. On en est là. Si on recrute des conducteurs et d'autres ne veulent plus faire l'Angleterre et quittent l'entreprise, on tourne en rond.
Et ce transporteur espère revoir avant Noël les 2 routiers français de sa société, toujours bloqués à Douvres, en attente du résultat de leur test antigénique.
Maximilien Carlier à Calais pour Europe 1. Prenons maintenant la direction de Verbier en Suisse, charmante station de ski où c'est un peu la panique depuis quelques jours. L'annonce de l'apparition au Royaume-Uni de cette nouvelle souche du Covid a quelque peu terni les joies de la glisse. Il faut dire que ce domaine skiable est particulièrement prisé des Britanniques. Alors pour ne prendre aucun risque, Hélène Terzion, les Suisses ont décidé de mettre en quarantaine tous les sujets de la couronne.
Effectivement, et cela répond à l'inquiétude de la population. Cet habitant confie avoir été gêné d'ailleurs par le non-respect des règles de certains Britanniques sur les pistes de ski.
J'ai aucun problème à ce que les Anglais viennent ici, parce qu'évidemment ils font marcher la station. Mais quand je constate que dans les cabines, les Anglais ont le masque autour du cou et ne respectent pas les directives, ça me dérange.
Cet habitant est rassuré par la mesure de quarantaine de 10 jours, imposée donc à toute personne provenant du Royaume-Uni depuis le 14 décembre. C'est le cas de la famille de Katia qui est venue la rejoindre ces derniers jours. Elle n'est pas en quarantaine, mais ses parents et son petit frère, eux, ont l'interdiction de sortir de leur chambre d'hôtel.
Tout ce processus est surréaliste. Il y a cette peur, cette paranoïa des Britanniques. Ils sont traités comme des patients alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Du coup, ils n'ont rien d'autre à faire que regarder Netflix, travailler, alors qu'on devait skier ensemble. Ils ont le sentiment que leurs vacances sont gâchées.
Cette année, les touristes britanniques sont moins nombreux que d'habitude, mais ils représentent ici 20% de la clientèle. Simon Viguette, directeur de l'office de tourisme, explique qu'il a fallu les identifier.
Donc on a pris dès lundi matin contact avec tous les hébergeurs, que ce soit les hôteliers, les agences de location, les tour opérateurs, pour identifier les lieux où il pouvait y avoir des personnes qui seraient concernées par cette quarantaine obligatoire. Alors actuellement, ça concerne environ 325 personnes.
Des Britanniques qui, face à cette situation, ont pour beaucoup préféré retourner chez eux ou bien trouver une autre destination de vacances.
Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 à Verbier en Suisse. Pas de miracle de Noël pour le monde de la culture. Cinémas et théâtres resteront fermés jusqu'au 7 janvier minimum. Le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui les recours au vu du contexte sanitaire. Mais la plus haute juridiction administrative précise toutefois que si la situation venait à s'améliorer, la fermeture des lieux culturels ne pourrait être maintenue au seul prétexte qu'il existe un risque de contamination. Et ça, c'est un motif d'espoir pour Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, espère que le gouvernement entendra l'avertissement du Conseil d'État.
En tout cas, il va se rendre compte qu'on existe, qu'on n'est pas des rigolos. Il y a un peu de considération qui va être donnée. On a besoin de considération. On a besoin que la population française ne nous dise pas « Oh, ça va à vous, avec votre petit nombril, alors qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. » C'est pas ça. C'est pas le débat. On ne veut pas que les gens meurent dans les hôpitaux, mais on existe. Mais on est là. On est la nation aussi. Il y a énormément de gens qui travaillent. Ça apporte des milliards à la France, la culture. Un pays sans culture coûte plus cher qu'un pays avec. Je pense que ça, cette notion de pas essentiel, a été balayée. Oui, ça a été balayé. On a été reconnu comme les voitures ou je ne sais pas quoi, les restaurants, etc. Non, oui, ça c'est très bien. Et puis la liberté de la culture, on a droit à la culture, on ne peut pas l'empêcher. Les gens y ont droit. C'est une avancée, vraiment.
Jean-Michel Ribes au micro Europe 1 de Diane Chenouda. Les premiers lots du vaccin Pfizer-BioNTech sont en route. Ils ont quitté ce matin l'usine belge de Puurs à destination des pays de l'Union européenne. L'opération se fait sous très haute surveillance. Chaque camionnette réfrigérante est escortée par deux véhicules des forces de l'ordre. Le parquet de Toulouse ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration dans l'affaire de la mère de famille disparue dans le Tarn. Rien n'indique que la disparition de Delphine Jubilard a pu être volontaire, explique le procureur. Deux battues ayant réuni un millier de volontaires ont eu lieu aujourd'hui pour tenter de retrouver cette infirmière dont on est sans nouvelles depuis maintenant 8 jours. On a appris aujourd'hui le décès de la chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï. Elle s'est éteinte à l'âge de 82 ans. Née à Jérusalem, c'est dans les années 60 et 70 qu'elle se révèle au public avec des titres comme Kazachok, Tourne et manège ou encore Sans chemise, sans pantalon. Rika Zaraï qui nous a donc quittés aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Eux n'ont pas de chemise ni de pantalon, mais ils ont des maillots et des shorts. Dernier effort ce soir pour les footballeurs de Ligue 1, 17e et dernière journée de l'année, avec beaucoup de matchs au programme. 5 rencontres sont en cours, nous en suivons 3 ce soir sur Europe 1. Et on commence avec vous, Romain Boselli. Vous êtes au stade de la Mosson au Montpellier et mené par le leader lillois.
Et l'égalisation à l'instant de Montpellier, un but partout, c'est Gaëtan Laborde qui vient d'égaliser pour le MHSC. Effectivement, ce sont les Lillois qui menaient jusqu'à présent, le co-leader de cette Ligue 1 avec un but de Timothée Weah sur un bon service de Cheka. Mais à l'instant, les Montpelliérains qui viennent égaliser, c'est mérité dans l'ensemble parce que les Montpelliérains ont eu plusieurs occasions, notamment en première période. Et ça fait un partout désormais dans cette rencontre entre le MHSC et le LOSC.
Merci beaucoup Romain Boselli, direction maintenant Angers, le SCO qui fait la surprise ce soir et qui est en train de dominer l'Olympique de Marseille, Loïc Folio.
Ah oui, et assez nettement même, hein, 58 minutes de jeu, 2 buts à 0 pour Angers SCO, et franchement, eh bien, c'est un score qui reflète parfaitement la physionomie de la rencontre avec une domination outrageuse de la part d'Angers SCO. Ouverture du score signé Pereira Lage dès la 3e minute sur un service magnifique de Diony. Fulgini a failli réaliser le break dans la foulée à la 12e, et c'est finalement Diony qui s'est mué en buteur. Superbe but, hein, un bel enchaînement de la part de l'attaquant angevin qui inscrit sa première réalisation cette saison. L'Angers qui mène 2 buts à 0 la 58e.
Loïc Folio, et pour terminer, on va au Parc des Princes avec un PSG diminué mais qui mène contre Strasbourg, Julien Froment.
Exactement, 58 minutes de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à cette équipe de Strasbourg, et c'est un titi parisien, un joueur formé au club, le jeune Timothée Pembélé, qui a ouvert la marque pour le PSG à la 18e minute de jeu sur une frappe d'André Di Maria détournée par Kawashima, le gardien strasbourgeois. Et bien Pembélé qui traînait dans les parages, qui va pousser ce ballon donc dans le but vide. Voilà comment Paris mène au score. Paris Saint-Germain qui est loin d'être talentueux ce soir, mais pour le moment qui fait le travail et qui reste surtout au classement, et bien collé à Lille et à Lyon. 1-0 donc pour le PSG face à Strasbourg après 59 minutes de jeu.
Merci beaucoup Julien Froment, merci messieurs, on vous retrouve dans quelques minutes à la fin de cette édition. On passe à la météo, Anissa Haddadi, le temps demain sera gris.
Oui, avec au programme de ce 24 décembre, Julien, demain, des averses, du vent et une chute des températures. Avec donc pour cette journée de réveillon, sur la moitié nord du pays, le vent du nord qui souffle sur les côtes de la Manche. Ça va bien rafraîchir l'atmosphère. Sur la moitié sud, le temps est plus sec, avec en Auvergne et dans la vallée du Rhône, même jusqu'en Provence, de belles éclaircies. Et puis dans les Landes et sur le Pays Basque, quelques petites averses demain matin. Au fil des heures, le ciel se dégage sur le nord, le soleil est de retour. En Occitanie, en Auvergne, en Bourgogne et en Alsace, l'après-midi sera pluvieuse demain. Et puis sur le Jura, les Vosges, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, vous l'avez compris, sur la grande majorité des reliefs, il va neiger demain à partir de 1000 mètres d'altitude. Les températures, elles baissent, vous allez le sentir demain avec 2 à 10 degrés, 2 à Charleville-Mézières, 4 à Lille, 5 à Paris, 8 à Bordeaux et 10 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, ça baisse encore avec 7 à Rodez, 9 à Nantes, Nancy et Paris, 10 à Besançon et Quimper.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street remonte vers les sommets avec l'aide des valeurs technologiques.
Eh oui, ça repart. Alors, c'est pas très spectaculaire, mais ça monte sur le Dow Jones, plus 0,38%. On remonte effectivement vers les plus hauts, 30 130 points sur le Dow Jones. Le Standard & Poor's, plus 0,07%, on est à 3 690 points. Oui, les valeurs de technologie sont en hausse. Alors là encore, ce n'est pas flambant, mais ça suffit quand même à progresser. Du côté de Facebook, on a une hausse de 0,5% avec IBM qui gagne 0,4%, avec Google, plus 0,6% aussi. Donc tout ça monte gentiment, mais sûrement. Tesla aussi prend 1%, $647.50. Le titre avait pas mal baissé avec des arbitrages concernant la fameuse voiture électrique attendue du côté de chez Apple. Et Apple souffle ce soir de 0,5%. Le titre était bien remonté. On est à $131.20 sur Apple. Le pétrole regagne du terrain. Il avait consolidé ses deux dernières séances. Plus 2,6%. Ça rebondit à $51.20 le Brent. Exxon en profite pour gagner 1,4%. Et puis l'euro est assez stable à 1,2180 face au dollar.
La Bourse de Paris a refranchi le cap des 5500 points sur le CAC 40 en hausse de plus d'1%.
Oui, plus 1,11%, 5 527 points sur le CAC. C'est assez calme, hein. Évidemment, on est quand même à la fin de l'année. On sent bien qu'il y a beaucoup d'absents. Beaucoup d'investisseurs ont déjà bouclé leurs comptes. Le secteur financier a quand même repris de la hauteur en vue du dénouement du Brexit. On sent bien que le secteur veut se reprendre un petit peu. Il avait pas mal souffert ces dernières semaines. Natixis, plus 5%, Société Générale, plus 4%, BNP, plus 3%. Et puis, autre secteur qui a baissé ces derniers mois, c'est le secteur aéronautique qui remonte aussi, qui rebondit un petit peu. Air France KLM, plus 4,5%. On a Airbus, plus 4,5% aussi. Et puis Figeac Aero qui gagne 1,6% ce soir à la clôture.
Exception du jour, Didier, le groupe de spiritueux Marie Brizard qui a reperdu du terrain.
Oui, assez nettement, moins 5,7%, 1,34€. Marie Brizard qui voit son projet d'augmentation de capital repoussé à plus tard. Un projet important pour les affaires du groupe, 105 millions d'euros. C'est un projet d'augmentation de capital qui est repoussé sans doute à l'année prochaine. Donc ça baisse ce soir sur le titre Marie Brizard, moins 5,7%. Sur les autres places financières, ça remonte partout. Le DAX, plus 1,2% à Francfort. Bruxelles, plus 1,3%. Madrid, plus 1,8%. Et donc le CAC 40, plus 1,11%, 5527 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag, c'est à vous.
Bonjour Véronique Gilardeau.
Bonjour tout le monde.
Un grand merci de nous avoir rejoints, vous aussi, dans notre studio en plein cœur de Rungis. Alors vous portez un nom qui fait rêver. Les huîtres Gilardeau font partie, j'ai envie de vous dire, de notre patrimoine. Elles font partie des huîtres les plus renommées de France. Vous êtes donc ostréicultrice et présidente de la Maison Blanc qui a 40 ans et co-gérante de la maison familiale Gilardeau qui, elle, a plus de 100 ans. On nous a dit, Véronique Gilardeau, que vous étiez la seule femme mandataire du pavillon A4, c'est-à-dire pavillon de la marée. C'est difficile de travailler dans un marché rempli d'hommes ?
Pas du tout. C'est très agréable parce que j'ai beaucoup d'attention de la part de tous ces hommes qui sont au pavillon. Je suis plutôt très, très gâtée. Donc, j'adore travailler là-bas au pavillon A4. Pour rien au monde, je changerai.
C'est alors, super. Pour rien au monde, vous voudriez changer. Vous connaissiez depuis longtemps, par le biais de la maison Gilardeau, cette atmosphère. Mais vous y êtes vraiment depuis un an quand vous avez repris la Maison Blanc qui distribue notamment les huîtres Gilardeau. On reviendra tout à l'heure plus largement sur la Maison Blanc. Qu'est-ce que quand même vous avez découvert en étant là depuis un an ? C'est un peu votre premier vrai Noël qu'à vous, là.
Oui, alors c'est le deuxième Noël. Et moi, ce que j'ai vraiment et ce que j'adore énormément, malgré ce Covid et tout ça, il y a une entraide entre nous, il y a une solidarité, il y a vraiment des gens très, très sympas. Il y a une admiration pour mes clients, pour tous les mondes. Oui, c'est vrai qu'ils travaillent sous pavillon parce que je pense qu'il y a vraiment la valeur du travail et que malheureusement, parfois, on perd. Et on n'a pas ça ici. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je suis tous les jours ravie d'arriver au pavillon A4. Voilà.
C'est très intéressant et c'est agréable ce que vous nous dites, Véronique Gilardeau, parce que vous, votre clientèle principale, c'est quand même les restaurateurs.
Et les restaurateurs.
Ils sont fermés en ce moment. On entend votre enthousiasme, votre énergie, votre optimisme. Ça vous vient d'où ?
Je suis belge, c'est pour ça.
Une belge qui vend des huîtres, oui, c'est pas anodin. Justement, tiens, ce marché des huîtres, mm-hmm. On le disait, Elisabeth le disait, ça dépend beaucoup des restaurants. Malgré tout, est-ce vous aussi, vous avez vu qu'on a envie de se faire plaisir et du coup, on en achète plus pour manger chez nous que ce que vous auriez pu imaginer ?
Tout à fait. Je pense que les gens, ils ont envie de se faire plaisir. On a découvert, je pense aussi, un petit peu plus le poissonnier, donc le commerce traditionnel. Et ça fait très, très plaisir. Donc, il y a à nouveau un vrai plaisir d'aller au marché et tout. Et nous, on travaille actuellement très bien avec nos clients poissonniers qui sont pour moi un très beau métier, qu'on a de moins en moins, malheureusement, parce que les gens ont peur que c'est dur et tout ça. Mais on est ravis parce qu'ils ont vraiment quand même pris un bon volume qu'on avait perdu, bien sûr, avec la restauration.
On entend ce mot plaisir qui revient dans votre bouche, on l'entend. Est-ce que les ventes se sont aussi reportées chez les particuliers au-delà des poissonniers ?
Oui, je pense. Donc le poissonnier travaille bien parce que les particuliers vont le voir. Donc les marchés, tout ça, les poissonniers, je pense qu'ils se portent très bien.
Justement, la Gilardeau fait partie des huîtres mythiques et on ne le dit pas uniquement parce que vous êtes là autour de notre table et que vous nous avez par ailleurs apporté des huîtres qu'on va tout à l'heure déguster. Quelle est la particularité de cette huître Gilardeau ? Comment ça a pu comme ça devenir une marque mondiale ?
Alors, je pense que c'est vrai, l'exigence au niveau qualité, donc au sein de la famille Gilardeau, hein, donc là je parle de toute la famille qui est quand même derrière ce produit, je pense que c'est aujourd'hui on est vraiment reconnu comme un produit qualitatif. Les gens, nos huîtres, c'est vrai, elles sont normalement bonnes du 1er septembre jusqu'au 1er septembre après. Nous avons plusieurs sites de production et nous essayons toujours de trouver vraiment le meilleur site du bon moment. Donc on vend toujours le meilleur, ce qu'on a chez nous. Et c'est les clients qui le disent, c'est pas moi, mais c'est vrai, souvent les clients nous disent que nous avons une régularité de produit qui est assez exceptionnelle. Parce que nous sommes quand même dans un produit naturel, constamment confronté au froid, au chaud, climatique et tout. Et on essaye quand même toujours d'avoir un produit régulier toute l'année.
Véronique Gilardos, c'est important d'être une entreprise familiale quand on traverse une crise comme celle-ci, qu'on vend des huîtres ?
C'est très important parce qu'il y a une solidarité même parmi ma famille. Donc déjà au pavillon A4, il y a une solidarité, donc c'est très agréable. Mais même dans ma famille, moi je vois mon fils, il travaille avec moi. Ma fille, elle travaille actuellement, donc ce sont des jeunes, ce sont des étudiants. Mais ma fille, elle emballe des huîtres. Il y a mon fils qui est avec moi. La famille, hier, mon beau-père était sur le mine, tout ça. C'est très agréable. On s'appelle matin et tout. On a des équipes avec nous qui sont là depuis 20 ans. C'est super et c'est une chance.
Mais j'ai découvert, quand on a préparé cette interview avec Dora Nana qui travaille avec nous et Elisabeth Assaé, qui nous a dit « L'huître, ça voyage très bien ».
L'huître, elle adore voyager.
Et on peut la garder 15 jours, comme oui. Ça, sur le balcon, s'il ne fait pas trop chaud, nous a-t-on dit.
Véronique Gilardot, il y a une soif de transparence de la part des clients. On le voit, on l'entend chaque jour dans la France Bouge. Comment les rassurer, notamment sur la pêche responsable, quand vous vendez vos huîtres et autres ?
Oui, alors si vous voulez, c'est vrai, il y a quand même une pêche responsable parce que je pense qu'aujourd'hui c'est automatique. Hein, donc on ne peut pas pêcher plus, les gens en sont très conscients, les clients s'adaptent. Donc là je parle des professionnels, hein, donc après c'est peut-être pas le consommateur final qui est mieux au courant. Mais je trouve que les poissonniers, c'est pareil, ils nous rendent beaucoup service, sont peut-être moins dans la commande, mais plus à acheter vraiment ce qui est disponible. Ce qui pour moi a un vrai engagement sur la pêche durable, parce que c'est pas... on travaille très peu avec des commandes et tout ça, c'est vraiment on prend ce que la mer nous donne. Et ça, c'est super, parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent c'est très compliqué à gérer, parce que les gens ils nous passent des commandes, ils nous passent des fraises en hiver et tout ça. On n'a pas du tout ça dans la pêche. C'est vraiment selon la mer, ce qu'elle donne, on achète. Et ça, c'est super.
Merci Véronique Gilardot. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison Blanc et co-gérante de la Maison Familiale. Gilardot, vous nous avez donné envie avec vos très très belles huîtres. On vous souhaite un joyeux Noël.
Merci à vous deux, Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Et à demain, 13h, dans la France Bouge, vous y parlerez art de la table avec la patronne de Guy Degrenne. 22h28 sur Europe 1 et comme promis, on termine ce journal de la nuit avec le ballon rond, dernière soirée de Ligue 1 avant la trêve et ces trois rencontres que nous suivons ce soir sur Europe 1. On va tout d'abord au Parc des Princes retrouver Julien Froment. Julien, le PSG gagne mais n'impressionne pas face à Strasbourg.
Ouais, exactement, c'est le service minimum 1-0 toujours pour le PSG face à cette équipe de Strasbourg. Ce but signé Timothée Pembélé à la 18e minute de jeu. Et c'est vrai que Paris termine un petit peu cette première partie de saison de manière assez délicate. Hein. Il faut le rappeler, il y a quand même 10 absents de marque, notamment Neymar, Icardi, Sarabia, Bernat. Bref, quasiment l'équipe type du Paris Saint-Germain. Et pour le moment, eh bien, l'équipe de Thomas Tuchel rend vraiment une copie minimaliste face à une équipe de Strasbourg qui malheureusement manque un petit peu d'ambition dans cette fin de rencontre. 1-0 donc pour Paris face à Montpellier après 70 minutes de jeu.
Merci Julien Froment. Direction maintenant le stade de la Mosson où Montpellier vient d'égaliser à nouveau face à Lille. Romain Boselli.
Ouais, effectivement, deux buts partout désormais dans cette rencontre entre Montpellier et Lille. Match spectaculaire qui s'est emballé surtout en seconde période. Et on vient d'assister à un chef-d'œuvre d'Andy Delors. Un ciseau retourné dans la surface magnifique sur un centre de Sambia pour l'égalisation montpelliéraine. Montpellier qui avait fait le plus dur en égalisant par Gaëtan Laborde après l'ouverture du score de Timothée Weah en première période. Et les Lillois qui avaient repris l'avantage ensuite sur pénalty en début de seconde période par un pénalty transformé par Ikoné. Deux buts partout désormais dans cette partie. Il reste 19 minutes pour s'emballer et voir une fin de match spectaculaire.
Merci Romain Boselli. Et pour terminer, Angers-Marseille, Loïc Folliot avec un tout petit OM ce soir face aux Angevins.
Oui. Ah oui, on parlait de PSG minimaliste. Eh bien écoutez, copie conforme du côté des Phocéens qui sont menés 2-0 et ce score respecte véritablement la physionomie, je vous le disais tout à l'heure, de cette rencontre avec des réalisations signées Pereira Lage à la 3e et Diony qui a doublé la mise pour les Angevins à la 22e. Marseille a bien eu l'opportunité de réduire l'écart. C'était il y a 3 minutes minutes seulement avec un pénalty au bénéfice de Dimitri Payet après une main de Pereira Lage dans la surface de réparation signalée par l'arbitre Hakim Ben El Hadj. Et Payet a trouvé Bernardoni étincelant, véritablement une belle parade du portier angevin pour détourner la tentative du numéro 10 marseillais. Marseille qui est donc mené 2-0 alors qu'il reste 16 minutes dans le temps réglementaire.
Merci beaucoup Loïc Folio en direct du stade Raymond Coppa pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi ça va, le PSG mène 1-0, va finir tranquillement cette fin de première partie de championnat avant de passer la vitesse supérieure. Je sais que vous avez du mal à y croire, mais nous en reparlerons.
On en reparlera le temps voulu. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et nous on se retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h.